Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Michel Crépu, bonjour.
Bonjour.
Michel, vous êtes venu nous présenter le numéro de l'été de la revue des Deux Mondes. Il s'agit d'un numéro double, juillet-août 2007, un numéro consacré aux voyages et aux voyageurs. Mais avant d'aborder ce thème du voyage, je souhaiterais peut-être commencer par l'évocation de votre journal littéraire. Il s'agit du premier article après votre éditorial. Un journal très éclectique et dans lequel, j'allais dire, vous n'épargnez personne.
Bah, je ne sais pas. Éclectique, certainement, oui, puisque je me suis intéressé là, ce mois-ci à des affaires qui, normalement, n'entrent pas dans mon champ d'intérêt. Mais je pense particulièrement à l'émission sur M6, La Nouvelle Star, qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès des téléspectateurs et qui, moi m'a beaucoup passionné pour une raison extrêmement simple, c'est que j'avais l'impression, à partir d'un principe d'ailleurs assez basique qu'on a connu dans les années 60, quand Mireille Mathieu a fait ses premiers pas dans l'émission, une émission qui s'appelait Télédimanche. Finalement, La Nouvelle Star, aujourd'hui, c'est un peu le Télédimanche d'autrefois, revu et corrigé, naturellement. Et là, ce qui était intéressant cette année, puisque je regarde tous les ans, très fidèlement, avec mes enfants, c'était l'émergence de cette personnalité, Julien, qui, de toute évidence, a été hors du lot, tout en étant là, mais était très nettement hors du lot, musicalement, esthétiquement. Et le jury, d'autre part, tout cela m'a paru, tout compte fait, tirer les choses plutôt vers le haut. Et j'étais d'ailleurs absolument sidéré d'entendre sur une autre chaîne, je ne sais plus laquelle, la chaîne animée par Jean-Marc Morandini qui commente les médias, d'entendre une dame, une jeune femme, dont j'ignore tout, critiquer la Nouvelle Star, parce qu'elle trouvait que c'était trop classique, trop attendu, et que finalement, elle verrait d'un bon œil que on puisse récompenser de mauvais chanteurs, que la médiocrité puisse entrer ainsi en lice. Et elle développait cet argumentaire dans une indifférence absolue, dans un cynisme total et faisant absolument, ne tenant absolument plus compte du tout du moindre critère de qualité. Le seul critère restant étant celui de l'efficacité médiatique ou de ce qui va surprendre les gens, etc. Alors, ça m'a confirmé dans l'idée que cette émission était une bonne émission et qu'en effet, elle tirait les choses vers le haut et que visiblement, ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc, ce personnage de Julien venant là-dessus, finalement représenté, comme vous venez de le dire, une forme de liberté, comme on dit aujourd'hui, n'étant pas formaté, mais développant son talent.
Sa propre personnalité.
Sa propre personnalité, tenant compte, ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup touché, tenant compte des gens qui travaillent avec lui, les musiciens, les anonymes de la télévision, mais sans qui bien des choses ne pourraient pas se faire. Donc, les mettant en valeur, y faisant attention, tout ça, ça m'a comblé. Même si je ne mélange pas tout et même si je suis bien conscient que Jean-Sébastien Bach, c'est autre chose encore, il n'empêche que on tire les choses vers le haut, là, dans ce cas précis. Et donc, je suis pour. Voilà.
Alors, vous écorchez au passage notre Johnny national. Il y a un autre personnage que vous écorchez. Visiblement, vous avez passé beaucoup de temps en face de la télévision,
oui,
puisque vous décrivez un débat que vous pensez à Tchet Tadei, où sur le plateau se retrouve Jean-François Kahn. Il y a également Alain de Benoît et Edoui Plenel.
Oui, c'était pas dans la même émission.
C'était pas la même émission, oui.
Oui, un mot sur Johnny Hallyday, si vous voulez bien, cher Christophe. Là aussi, il était trop tard pour que je le mentionne dans la revue, mais ayant assisté au concert des Rolling Stones il y a 3 semaines, là, au Stade de France, j'ai une fois de plus constaté quand même l'abîme qui sépare un groupe comme celui des Stones ou de Mick Jagger de ce pauvre Johnny Hallyday qui n'a jamais été qu'un répétiteur de chansons qu'on écrivait pour lui, qui vraiment, enfin, n'a jamais fait montre d'une évolution quelconque. Et donc, mon hostilité à Johnny Hallyday, étant ce qu'elle est, je trouvais bien que ça soit transmis dans les colonnes de la Revue des Deux Mondes.
Et puis. Et sur les ondes de Canal Academy.
Et sur les ondes de Canal Academy. Tout ceci sans aucune rancune, et je n'en veux absolument à personne d'apprécier les chansons de Johnny Hallyday. Et en ce qui concerne alors nos amis de la grande presse, là, Jean-François Kahn et autres, bah écoutez, oui, là c'est une réaction de téléspectateurs agacés en ce qui concerne Jean-François Kahn, qui était interrogé sur ce que Marianne avait publié dans son numéro juste avant l'élection, le premier tour de l'élection présidentielle, où Sarkozy était littéralement traîné dans la boue et traité de fou. Il est tout à fait inutile d'être pro-sarkoziste pour s'interroger sur ce genre de propos, et la façon que Kahn avait d'expliciter ou de justifier cette manière de traitement m'a paru d'une tartufferie franchement comique. Je trouve que c'est franchement trop facile de jouer avec la réalité comme ça. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette phrase de Giono que j'ai paraphrasée dans mon journal, sans le citer, mais là je le cite au micro. Il tire au canon, mais en mouillant la poudre, en faisant bien attention, finalement, au bout du compte, d'être inoffensif. Donc, ça va bien, quoi. Et puis, pour Benoît et Alain de Benoît et Plenel, bon, ben là, c'est autre chose. J'étais frappé surtout par le côté interchangeable de leur discours. Alain de Benoît, vieux représentant de ce qu'on appelait autrefois la nouvelle droite, avec un discours qui m'a toujours paru d'une pauvreté philosophique franchement affligeante, et Plenel toujours dans son costume de procureur, naturellement sans tâche et naturellement habité par cette sainte colère qui est tellement à mes yeux aussi un signe de tartufferie que voilà, je me suis dit allez, allons-y, notons-le au passage.
Alors je rassure nos auditeurs, vous n'abandonnez pas la littérature, hein, il s'agit bien d'un journal littéraire, et vous rendez hommage d'ailleurs à notamment Albert Thibaudet, auquel l'émission Un jour dans l'histoire s'est intéressée en invitant Michel Desmarines.
Oui, là, revenons aux choses sérieuses. Cette journée d'études, enfin cet après-midi d'études sur Albert Thibaudet, à laquelle je fais allusion dans le journal, était très intéressante, même si nous étions fort peu nombreux et peut-être plus nombreux à la tribune que dans la salle. Comme l'a dit Gérard Slama le lendemain sur France Culture, en évoquant cette même après-midi, tout ceci n'avait aucune espèce d'importance. Aurions-nous été les seuls à la tribune, que ça n'aurait rien changé et il n'y aurait eu aucun regret à avoir. Et donc, la publication de ces écrits de Thibaudet, à la fois les critiques littéraires chez Gallimard, la collection Quarto, et puis les textes politiques, enfin d'études... Chez Robert Laffont, dans la collection Bouquins, était, l'occasion de découvrir un personnage qui dit tellement de choses sur la place que la littérature a eue dans la pensée française, j'allais dire dans l'économie psychique de la France, dans son économie culturelle, dans sa mythologie personnelle, intime. Il est tellement une incarnation de ce qui définit au mieux ce pays que vraiment ça vaut la peine de se plonger dans ces textes qui n'étaient plus vraiment disponibles sinon à la faveur d'un bouquiniste. Et là, on est en face d'une approche de la littérature fondamentalement humaniste, fondamentalement imprégnée de cet esprit, au fond...
Pluridisciplinaire.
Oui, dont peut-être la source se trouve chez Montaigne, donc une appréhension généreuse des choses, une appréhension, pluridisciplinaire, plurielle, enfin... très ouverte et prenant en compte tous les aspects de l'existence. Et j'étais à la fois amusé, frappé, admiratif de voir la manière dont il parlait d'Arthur Rimbaud, qui n'était pas forcément, si on se replace un peu dans le contexte, un personnage comme Thibaudet, avec son côté provincial, prudent, pas très amateur de cimes sublimes et tombant comme ça dans les illuminations de Rimbaud et finalement trouvant un chemin de compréhension de Rimbaud très simple et très parlant finalement qui peut-être ne résume pas non plus tout Rimbaud. Ça on peut tout à fait avoir d'autres approches, mais vraiment je trouve ça très riche et plein de bon sens, enfin plein de cette simplicité absolument jamais prétentieuse et dont on peut évidemment faire son miel encore aujourd'hui. Évidemment. D'ailleurs, on va revenir sur Thibaudet dans la revue, avec Michel Lemary et avec d'autres. J'y tiens beaucoup. Là, c'était une notation au vol, mais ça vaut évidemment la peine d'y revenir plus en détail, de façon plus approfondie, notamment avec Michel Lemary, qui a fait ce travail de biographie tout à fait important. Voilà.
Alors, le thème de la revue des deux mondes est le voyage, un voyage tourné vers l'Asie. Le titre de la revue est Japon, Chine, Laos, Birmanie. Et je souhaiterais peut-être d'abord évoquer le texte de Bernard de Montferrand sur Claudel. Claudel, poète et ambassadeur, point d'interrogation. On sait que les surréalistes contestaient l'association des deux titres et Montferrand, naturellement, le défend. Est-ce qu'il existe un lien, justement, entre l'ambassadeur qui est chargé pour l'État d'observer et l'homme de lettres qui, lui, décrit les sentiments des hommes et des sociétés ?
Oui, la réponse est oui, absolument. Je crois que le lien qui existe entre l'ambassadeur et le poète, c'est le monde. Claudel est foncièrement un écrivain dévoré par la réalité du monde, dans tous ses aspects. Et je crois que d'ailleurs, le caractère très, très baroque de l'esthétique de Claudel, il en a été question d'ailleurs ces jours derniers à Brangues, à l'occasion d'un colloque dont j'ai lu un compte-rendu dans Libération ce matin, extrêmement intéressant, qui s'interrogeait sur le soulier de satin, sur l'esthétique du soulier de satin, et qui mettait l'accent sur la dimension baroque. Mais je crois que on le retrouve tout à fait dans son travail d'ambassadeur, c'est une passion pour la complexité, la richesse, la prodigalité de l'activité humaine. Voilà, je crois que Claudel, c'est vraiment, de ce point de vue-là, quelqu'un en qui il n'y avait aucune espèce de contrariété entre son travail de poète et son travail d'ambassadeur, même si les choses étaient évidemment réparties et scindées. D'ailleurs, l'emploi du temps quotidien de Claudel, de ce point de vue-là, est tout à fait stupéfiant. Enfin, 2 heures le matin après la messe réservée à la littérature, 2 heures même, je crois que c'est juste 1 heure. Puis ensuite, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, le travail du diplomate.
Donc, une journée parfaitement organisée, ordonnée.
Une journée parfaitement organisée, couché à 9 heures. Ce sont des gens qui ont travaillé avec lui, notamment au Brésil. Le nom m'échappe de ce très brillant Darius Milhaud, voilà, qui a été un collaborateur de Claudel en Amérique latine, si je ne me trompe pas, qui a raconté ça. Et cette méthode, ce côté presque, oui, de haut fonctionnaire, au fond, n'est en rien contrariant pour l'activité du poète, si on pense que, dans un cas comme dans l'autre, il y a cette passion pour la réalité terrestre. Je n'en fais pas du tout. Le catholicisme de Claudel est toujours présent, et la dimension baroque de Claudel en est évidemment l'illustration esthétique. Donc il ne s'agit pas du tout d'un panthéisme ou d'une espèce de paganisme claudélien qui serait ensuite racheté par une théologie. Non, pas du tout. C'est vraiment, au contraire, le catholicisme à son plus haut, à son plus fort.
Alors justement, on retrouve les qualités descriptives, mais des descriptions différentes avec une plume différente, celle de Charles Dantzig sur ce que j'appellerais une flânerie au Laos, en Birmanie, après être passé par la Thaïlande. Le texte de Marc Fumaroli, intitulé « Pèlerinage à Ise », qui est au sud-ouest de Honshu, l'île la principalement peuplée du Japon. Et le troisième texte, qui est une réédition, c'est celui de Théophile Gautier, mais cette fois non pas sur l'Asie, mais sur l'Espagne, plus particulièrement l'Andalousie.
Oui, on l'a mis un petit peu à part, évidemment, parce que ça paraissait un peu hétéroclite de mélanger l'Andalousie avec le Laos et la Birmanie. Mais voilà, enfin, c'était un peu irrésistible d'avoir sous la main, comme ça, dans la collection de la revue, ce texte de Théophile Gautier, qui est une merveille de littérature. Vraiment une merveille. Donc
le voyage littéraire, c'est avant tout, vous venez de le dire, la passion de la découverte. Est-ce que cette capacité à décrire les hommes, à décrire les civilisations existe encore de nos jours? Est-ce qu'au fond, le voyage tel qu'il était conçu au XIXe siècle existe encore?
Oui, je crois qu'il y a toujours une curiosité. On le voit par exemple au cinéma. dans certains documentaires, par exemple. J'en ai vu un récemment, auquel je pense là spontanément en répondant à votre question, un documentaire qui filme les camionneurs qui sillonnent les routes d'Europe de Paris à Moscou et de Moscou à, dans les confins sibériens, etc. Le monde a changé naturellement. L'Andalousie visitée par Théophile Gautier aujourd'hui n'est plus celle-là. De même que la Russie visitée par le marquis de Custine au XIXe siècle n'est plus celle, bien entendu, que sillonnent les camionneurs dont je viens de parler. Mais raison de plus, justement, pour se donner une connaissance de ce changement. Non, je crois que la passion est toujours là, la curiosité est toujours là de raconter le monde comme il est. Mais peut-être que les moyens de raconter ce monde se déplacent aussi. Et en France, on n'a jamais été parangon de littérature voyageuse, encore qu'il faut y voir de près. Aujourd'hui, un écrivain comme Jean Rollin, par exemple, me paraît, et d'ailleurs c'est presque une façon de le limiter injustement, de parler de lui comme d'un écrivain voyageur, c'est un écrivain tout court, un merveilleux écrivain qui parcourt le monde. Son dernier livre, « L'explosion de la durite », sous ses dehors, comme ça, un peu fantaisiste, est un livre de voyage en Afrique d'une exceptionnelle qualité. Vraiment.
Alors Michel, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Hein. Il y a de nombreux autres articles, notamment un article du géopoliticien François Tual, hein, qui un article osé où il cherche les points de convergence entre le chiisme, donc des sens musulmanes, et l'orthodoxie russe, donc des sens chrétiennes. Je voudrais tout de même accorder une dernière question à l'entretien de Bernard Faucroule, qui est donc le président du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Il nous offre là un véritable hymne à la musique et nous sommes entourés et de musique et d'images et finalement cette surdose nous fait oublier les rapports que l'homme doit entretenir avec la musique.
Oui, je trouve que le grand intérêt de s'intéresser à la musique, là en l'occurrence avec Bernard Faucroule, ce n'est pas tellement d'ajouter une fois de plus une petite pierre à l'édifice culturel, des vacances de qualité, etc. Enfin bon, c'est pas ça. Ce qui est plus important à mes yeux, c'est que quand on s'intéresse à la dimension du beau, à la dimension artistique, alors on est confronté à des choses extrêmement précises, si vous voulez. On n'est jamais dans la généralité. Et c'est là, à mon avis, l'intérêt de cet entretien. De même qu'on parlait tout à l'heure, au début de notre émission, de Julien, la nouvelle star, et finalement d'une certaine valeur esthétique. Bon, bah là, avec Mozart, avec Bach, d'autres. Enfin, on est évidemment d'autant plus devant une réalité, la réalité de la beauté musicale qui passe. On n'est pas dans la paillette, on n'est pas dans le flou, on n'est pas dans le formatage. On est dans la réalité de la beauté. Et la réalité de la beauté, c'est une grammaire, c'est une précision, c'est une rigueur et tout ça. Et s'intéresser à cela revient pratiquement à un apprentissage de la précision. Et tout le monde peut en faire son miel, y compris et surtout après, quand on revient aux affaires de la cité, de la politique, dans la façon d'aborder des problèmes, on peut bénéficier de ce que nous apporte l'expérience de la beauté. Et ce que nous apporte l'expérience de la beauté, entre autres choses, c'est une, aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour moi, c'est essentiellement, mais en grande partie, un apprentissage de la précision, la forme, l'apprentissage de la forme. Une forme esthétique n'est jamais floue. Elle relève d'une construction, d'une rigueur, d'une grammaire, d'une partition. Voilà. Ce n'est pas de la même façon que la littérature, ce sont des mots dans un certain ordre, la musique, ce sont des notes dans un certain ordre. Ça paraît idiot de le dire, mais je crois que ce sont des choses qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas de prix.
Eh bien, merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, un numéro qui sera consacré à l'Europe, à quoi bon l'Europe, point d'interrogation. Merci et à très
bientôt. Merci à vous, bonnes vacances.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Au fil des pages consacré à la revue des deux mondes.